Bonjour. Alors, le thème ce matin n'est pas une surprise, puisque vous le savez depuis longtemps, ce qui est assez rare chez nous. Et je veux juste commencer en lisant le texte qui nous parle de ce qu'on doit aborder ce matin. Dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Pardon. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» nous avons vu se lever son étoile, nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précéder. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret, lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, amenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. En préparant cette période de l'Avent, et puis à ce sujet, en relisant tous ces textes qui nous parlent de la naissance de Jésus, j'ai été interpellé par Hérode, mais si vous avez lu les petits programmes qu'on a faits, hein, ce n'était pas juste Hérode, c'est Hérode, le mal frappe même à Noël. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, on en a souvent parlé, on en a parlé dernièrement avec Virginie aussi. On ne vit pas dans un monde où le mal et le bien sont synchronisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un grand malheur peut vous frapper un jour où il fait beau. Et un événement magnifique peut arriver un jour où il pleut. Je prends ce petit exemple-là. Mais nous, on a souvent l'impression que quand les choses vont bien ou quand quelque chose va bien, je vois que des demi-Virginiens avec un micro au milieu, j'aime pas ça. Quand quelque chose va bien, tout devrait aller bien partout sur la surface de la Terre. Ou alors, quand ça va mal, il faudrait que tout aille mal. Alors, dans les films, c'est bien fait. Vous avez remarqué, les enterrements, c'est toujours sous la pluie, les mariages au soleil. Mais ça, c'est dans les films. Toujours, toujours, quand il y a un enterrement, ils sont sous leur parapluie. Là, il pleut, il fait froid. Puis après, il y a la scène romantique. Et là, il fait soleil, l'herbe est verte. Et puis tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Et on est tellement touché par les traditions. Moi, j'ai essayé de lire, relire, ou plutôt d'écouter, parce que maintenant j'écoute la Bible au lieu de la lire. J'ai écouté des dizaines de fois les textes de la naissance de Jésus. Et je suis frappé par la façon dont, alors que nous, protestants évangéliques, on pense avoir la Bible et que la Bible, sola scriptura, on le dit en latin, ça fait mieux, je ne sais pas pourquoi. On a tellement nos imageries encroutées de traditions qu'on ne voit pas comment les choses se sont passées. Et on voudrait peut-être un peu, comme vous savez, les films de Disney, là, ils en sortent chaque année en général, hein, je les connais tous, je les aime bien, mais chaque fois qu'ils prennent un conte classique, ils changent la fin pour que ça se finisse bien. Hein. Dans le conte de Disney, la sirène, elle est heureuse à la fin, mais dans le vrai conte, non. Et etc. Dans Le Bossu de Notre-Dame, à la fin, le bossu, il est content, mais dans Victor Hugo, il se fait brûler, etc. etc. Hein. Et Noël, c'est un peu une période comme ça, où il faudrait que tout aille bien, paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté, partout. Parce que le petit Jésus est venu dans la crèche, nous amener la paix, la joie et l'amour. Youhou ! Jingle bells, youhou ! Et puis, on a construit cette imagerie, et puis ben, même nous, chrétiens, on est dans cette idée-là, hein, c'est du rouge, du vert, les sapins, là, pas vraiment de rapport pour nous. Mais alors que quand on regarde la vraie histoire, bon déjà c'était compliqué, hein, Marie est enceinte, l'histoire au départ est compliquée depuis le début, je ne vous la refais pas, enfin, ils arrivent là, ils doivent fuir, c'est une situation qui est, hein, imaginez-vous mesdames, vous devez vous enfuir à Dodane, à quelques semaines de votre accouchement, vous ne savez pas où le bébé va naître, enfin, on est loin du conte de fées quoi. Hein. Puis il n'y a pas vraiment de place, ils sont dans l'écurie. Bon, finalement, ils louent une maison quand même, parce qu'il reste quelques temps, hein, presque 2 ans, là, avant qu'ils s'enfuient. Et puis, alors, effectivement, il y a des choses magnifiques, extraordinaires. Les bergers qui ont des voix des anges, et puis ces mages qui traversent, qui font une distance incroyable pour venir adorer Jésus. Hein. Mais en même temps, il y a Hérode. Et puis, Hérode et tout Jérusalem. Parce qu'il est dit tout Jérusalem a été bouleversé. Quand il est dit tout Jérusalem, là, on pourrait traduire le tout Jérusalem, pas le petit peuple, les dirigeants, hein, ceux qui sont installés, ceux qui commercent avec Hérode, ceux qui veulent que ça reste comme ça parce que l'ordre établi leur va bien. Hein. Et puis qui veulent surtout pas que ça change, qui veulent bien une bonne dose de religion sur leur business, mais pas qu'on vienne au cœur des choses. Et là, ben, il y a cette chose terrible qui se passe. Hérode essaie de tricher pour se faire dire où est l'enfant. Les mages sont avertis par Dieu. Eux, ils sont innocents de tout. Hein. Ils repartent chez eux. Et là, Hérode pique une grosse colère. Effectivement, comme Ami nous l'a présenté, ce n'était pas quelqu'un de sympathique. C'était un homme méchant, bête, égoïste, désécurisé, violent, cruel. Et puis, on peut continuer la liste. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a trouvé une solution simple. Hein. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, hein, quelques siècles plus tard, a dit un célèbre évêque. Il a appliqué la même méthode, qui n'est pas nouvelle, on les supprime tous. Et vous imaginez le drame dans une région, parce que Bethléem et les environs, hein, ça fait du monde, rentrer dans chaque maison et tuer tous les garçons qui ont jusqu'à 2 ans. Ça se passe, c'est pas le jour de Noël, mais ça se passe dans cette même chose-là, quoi. Et puis, ben, imaginez pour toutes ces mamans et papas et cousins et oncles, enfin, toute cette population, ben, la venue de Jésus sur terre, pour eux, historiquement, comment ils l'ont vécu ? Ben, c'est le moment où on a tous perdu nos enfants jusqu'à 2 ans. Ce n'est pas le sujet d'une grande joie. C'est une horreur, c'est une tragédie. Alors nous, on est 2000 ans après, mais je suis sûr que 2, 3 générations, 4 générations après, dans cette région-là, la naissance du Messie, ah ouais, celui qui a fait que tous nos enfants sont morts, hein. C'est ça qui est resté. Et c'est terrible. Et quand on en arrive là, ben, y a une question qu'on ne peut pas éviter de se poser, c'est et où était Dieu ? Parce que Dieu, il fait son petit truc à lui. Il prévient son fils, super, son fils, il s'en va en Égypte. Il prévient les mages, il part de l'autre côté. Et la population qui n'a rien demandé, qui perd ses gamins, elle fait quoi là ? Et puis elle se dit, il est où Dieu dans ce moment-là ? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Je vois qu'il y a certains qui attendaient, non. J'ai pas vraiment une réponse à ça. Hein. Mais ça nous amène à une réflexion. On va pas s'arrêter là, bien sûr. Hein. Et juste un petit rappel. David en a vaguement mentionné aussi. Hein. Dans notre monde, il y a le mal et il y a le malheur. Et c'est pas synonyme. Hein. Qu'est-ce que c'est le malheur ? Le malheur, c'est quand quelque chose se passe qui est mauvais pour nous, mais qui n'est pas le résultat de la volonté, de l'intention, de la planification du mal. Hein ? Par exemple, vous allez une belle journée d'été, vous promenez au bord du Doubs en famille, vous êtes content, et votre enfant glisse sur les pierres, tombe à l'eau et se noie. C'est un drame, c'est terrible. n'est pas la faute du doux, ce n'est pas votre faute à vous, ce n'est pas la faute des pierres, c'est un grand malheur. Mais il n'y a pas une intelligence, la rivière ce jour-là ne s'est pas dit « je vais en attraper un pour le noyer », les parents n'ont pas dit « on espère qu'il y en a un qui va tomber à l'eau », non. C'est un malheur, c'est terrible, c'est une tragédie, le résultat est le même, mais ce n'est pas le mal. Avec Hérode, on a le mal à l'action. Et l'origine du mal reste un mystère autant pour les chrétiens que pour les philosophes, que pour tout. L'origine du mal, on ne sait pas. On n'arrive pas à comprendre. Ce qu'on sait, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Ça, c'est une des choses qu'on sait parce que la Bible le dit, on ne l'explique pas non plus. Mais le mal existe. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le mal est entré sur terre par l'intermédiaire des hommes. Ça, on le sait. Ce n'est pas eux qui l'ont créé, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils y ont ouvert la porte dans ce monde-là. Il existait ailleurs avant. Et depuis, tous les êtres humains à la naissance sont des porteurs sains de la maladie qu'on appelle le mal, maladie incurable et qui amène à la mort dans le sens le plus littéral, mais aussi figuré. Tous, on est des porteurs sains de ce virus qui s'appelle le mal. C'est-à-dire que chaque être humain, selon ce qui va se passer, selon les choix qu'il fait, selon ses réactions, et là aussi il y a une part de mystère, mais chaque être humain peut devenir l'auteur d'un génocide, peut faire des choses terribles, ou ne pas les faire, même s'il a ce potentiel en lui. Je n'ai pas dit par là que certains étaient destinés à faire le mal ou non, justement le contraire. On a tous ce triste potentiel en nous, mais ce n'est pas une fatalité qu'on l'exprime et ce n'est pas une fatalité ou une obligation qu'on le manifeste. Mais c'est là, on doit le savoir. Hérode est quelqu'un qui, quelles sont les raisons? Alors les psychologues modernes nous diraient c'est parce que son papa n'était pas gentil avec lui, que sa grand-mère lui avait pris son rocher, qu'on lui avait volé son petit nounours, je ne sais pas. Mais Hérode est quelqu'un qui, clairement, quand on voit sa vie, et son fils était encore pire que lui, ou aussi bien, aussi mal, on fait des choix constants pour donner au mal de la place parce que le mal leur apportait ce qu'eux voulaient dans leur égoïsme. Il a fait des choix et encore est répété. Et ce mal s'est manifesté de façon intelligente, calculée. Aller dans cette région, on sait qu'il était là, alors vous élargissez, vous prenez les villages autour, on sait que les anges sont venus il y a un an et demi à peu près, là, mais bon, on ne va pas prendre de risque. 2 ans, et puis vous supprimez tous les garçons de moins de 2 ans. Ça, c'est le mal qui est en action. Et de nos jours, les choses sont les mêmes. Il y a des choses qui se passent qui sont des grands malheurs, mais c'est l'intention, la volonté, la faute de personne. Ou même quand des choses malheureuses arrivent par négligence, alors on peut dire que c'est la faute de celui qui n'a pas fait attention, mais ce n'est pas une intention, c'est un manque d'attention, c'est grave aussi, mais ce n'est pas encore le mal. Mais le mal existe et effectivement il est quand même concentré chez les puissants qui dirigent ce monde. Quand l'apôtre Jean dit « le monde entier gît dans la main du malin », ce n'est pas une image, c'est une réalité. Et qui est d'ailleurs intellectuellement difficile à comprendre, parce que des fois, ou souvent, on ne voit pas ce que ces gens-là cherchent. Quand quelqu'un qui est multi-multi-milliardaire et qui ne peut pas réaliser ce qu'il a réellement, prend une décision qui fait mourir des milliers d'êtres humains quelque part parce qu'il change le prix du blé, qu'il retient ça et là, pour en gagner plus, mais ce n'est même pas pour avoir... Ça ne se compte pas, ça ne se mesure pas. C'est vraiment, il n'y a aucun autre intérêt que de faire du mal. Et puis ça se fait quand même. Et puis on voit ça dans beaucoup de domaines. Et là, c'est ce mal-là qui frappe et qui est quelque chose de terrible. Et puis, ben, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, donc Dieu n'est pas celui qui crée le mal, mais Dieu n'est pas intervenu pour ces gens-là. Et ça, ça nous pose un problème auquel je n'ai pas de réponse valable. On a quelques pistes de réflexion, mais rien de sérieux. Par contre, ce qu'on peut observer, et j'en arrive au point qui nous intéresse ce matin, si on reste là-dessus, on va tous aller se pendre, c'est que, pour une raison que je ne peux pas expliquer, mais c'est le choix de Dieu, ce Dieu qui est si fort et si puissant, David nous a parlé d'un Dieu puissant, et moi je voudrais parler ce matin de faiblesse, a choisi d'agir dans ce monde par la faiblesse. C'est étrange. Dieu est toujours le Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux, qui peut ressusciter les morts, qui a créé l'univers, qui... il peut toutes choses, il est tout puissant, c'est ce qu'il est. Mais avec la venue de Christ sur terre, donc on est dans cette période où on réfléchit, où on célèbre, où ce qu'on veut, la venue de Christ sur terre, Dieu opère à ce moment-là un changement de stratégie dans sa façon d'agir sur la terre. Dieu n'a pas changé, Dieu ne change pas. Il n'y a pas, comme disait David, un méchant Dieu dans l'Ancien Testament qui serait devenu gentil dans le Nouveau Testament. C'est ridicule. Dieu est toujours le même. Mais sa façon d'agir pour travailler parmi les humains sur terre change radicalement avec la venue de Christ et l'incarnation. Parce qu'il va décider que son outil de travail va être la faiblesse. C'était très simple pour Dieu d'installer son fils sur terre de façon magistrale et indiscutable. Vous pouvez faire quelque chose de bien, hein, au niveau mise en scène, même Hollywood n'a pas les moyens de Dieu. Il pouvait faire un truc que, encore aujourd'hui, ça serait indiscutable. On détruit tous les méchants à 200 km à la ronde, il y a un temple qui sort de là avec de l'or partout, on le met dessus avec des anges, avec... enfin, quelque chose qui frappe, quoi, non ? Une pauvre femme quelque part dans un village qui tombe enceinte, on ne sait pas trop, les gens autour pensent que c'est le facteur, on ne sait pas ce qui se passe, il y a quelques bergers qui ont vu un truc, et puis des espèces de païens qui sont venus de là-bas, de Bagdad, pour amener avec leur turban sur la tête. Ce n'est pas sérieux cette histoire. Honnêtement, Jésus, il naît aujourd'hui en Suisse, il n'y a pas une église qui reconnaît, quoi. Mais pas une, mais en Suisse, en France, ailleurs aussi, mais je veux dire, c'est incompréhensible cette histoire, quoi. En plus, les prophéties, moi j'ai pris du temps pour relire les prophéties de l'Ancien Testament, j'ai écrit la pensée du mois quand vous la lirez sur ce sujet, je me suis dit, mais ce n'était pas leur faute. On ne pouvait pas, honnêtement, on ne pouvait pas, en lisant les prophéties, comprendre Jésus, quoi. Elles sont claires, les prophéties, hein. Il s'assiera sur le trône de David, il régnera, il mettra les ennemis dehors, il sera puissant, il rétablira Israël, et tout là, et le lion, l'agneau, le machin, et truc. Alors maintenant, nous, 2000 ans après, on dit, oui, vous savez, les prophéties, les montagnes, les vallées, c'est ci, c'est là, c'est après. Mais eux, quand ils ont eu ça, ils n'avaient pas cette explication-là. Il y a une prophétie, on attend le Messie arrive. Zut, Esaïe l'a dit, Jérémie l'a dit, ils l'ont tous dit. Et puis ça se passe autrement. Ça se passe mal, très mal, très mal, très très mal. Et on se dit, mais c'est Dieu, tu fais quoi là ? Moi, je ne comprends pas cette histoire, quoi. Et puis Jésus, il prend tout à l'envers, quoi. Il vient dans une culture qui est très, très établie, et puis il va leur dire, dans une culture où on ne mange même pas le sang des animaux, il leur dit, buvez mon sang, mangez ma chair, détruisez le temple. C'est quoi ce bazar ? Il y a des gens qui étaient instruits dans la religion, il ne les prend pas, il prend des pêcheurs qui ne savent ni lire ni écrire, il les traîne avec eux, ils ne comprennent rien. Il y en a un qui veut faire tomber le feu du ciel, l'autre qui discute qui c'est qui sera premier ministre quand tu seras roi. Mais c'est, non, mais honnêtement, essayez de vous, dans la vraie vie, vous voyez ce truc-là et vous vous dites, c'est pas sérieux. On reconnaît un arbre à ses fruits, c'est le bazar, il n'y a rien qui va dans ce machin-là, quoi. Et pour couronner le tout, à la fin, il se fait trahir par un des imbéciles qu'il a choisi et Non, mais franchement, s'il y a une histoire ratée, mais de ratée, c'est Noël. C'est une catastrophe du début à la fin, ce truc-là, quoi. Et puis il meurt, et puis c'est fini. Alors, il y en a qui disent qu'il est ressuscité, ouais. Il y a toujours des gens pour raconter des histoires, mais vous l'avez vu, vous ? Non, on ne l'a pas vu, et puis voilà, quoi. Et puis c'est fini. Et puis voilà. Et après, ben après... Mais c'est incroyable ce truc-là. Et puis, Dieu a commencé une façon d'agir dans la faiblesse et de se révéler par et dans la faiblesse. Et c'est quelque chose qui me bouleverse parce que ça fait quelques années maintenant. Mais Dieu a dû faire ce travail dans ma vie. J'ai été un jeune chrétien qui ne dormait pas, qui courait partout, qui avait peur de rien, qui prêchait du matin au soir. Plus c'était dangereux, plus c'était difficile, plus j'étais content. J'avais le syndrome du héros. Hein. Il manquait le Z devant, mais... quand j'avais passé 3 nuits sans dormir et que j'avais prêché 8 heures et que j'avais pas eu à manger et qu'il faisait froid et qu'il n'y avait pas de chauffage, j'étais content, je souffrais pour Jésus-Christ, c'était super. Dieu l'a utilisé, il y a des gens qui sont convertis, ça a fait des églises, c'est super. Par contre, avec moi, le travail n'avait pas commencé, mais Dieu a son temps. Hein. Et puis, au bout d'un moment, quand même, peu importe le héros, le Z commence par arriver. Et puis, il y a toujours une montagne assez haute, un mur assez dur, un platane assez solide, hein, pour qu'on s'écrase dessus. Une fois. Il y a des gens qui sont plus solides que l'autre. Hein, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis, mais au bout d'un moment, hein, quand on commence à ressembler à un bulldog, parce qu'on n'arrête pas de rentrer dans des murs, de courir après les voitures en stationnement, on finit par se dire, et Dieu, tu es où là-dedans? Tu fais quoi? Et puis on commence à découvrir autre chose. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est Paul qui le dit. Dieu a choisi de me mettre une épine dans ma chair, alors on s'en fout ce que c'est, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais moi je le connaissais ce verset, j'ai prêché dessus, c'était super, j'aimais bien. Mais quand Dieu nous fait la grâce de commencer de vivre la faiblesse, c'est autre chose. Parce que là, on s'aperçoit qu'il ne faut pas aller chercher Dieu, il faut juste arrêter de ne pas lui laisser la place, hein. Arrêter de prendre toute la place, hein. Arrêter de... Vous savez, quand je pars une demi-journée ou trois quarts de journée, que ça m'arrive très rarement, mais que je laisse mon chien à la maison, quand je reviens, vous voyez le tag, il est hein, il saute dessus, il grimpe. Et il me faut 5-6 minutes avant que... Puis l'ignorer un peu, puis jusqu'à ce que... Hein, et j'ai l'impression que Dieu doit faire ça avec nous, quoi. Et alors, ce n'est pas agréable parce que le processus pour découvrir ça, il fait mal. Hein, parce que rentrer dans les murs, on n'aime pas. Et puis encore, et encore, et encore, et encore. C'est très désagréable. Et puis finalement, on découvre que ce n'est pas si mal que ça. Alors, je n'ai pas de réponse à ce que j'ai dit avant. Mais Dieu, dans ses choix, a décidé de laisser le mal agir, le malheur frapper, et de l'utiliser pour nous rendre faibles. Pour qu'il puisse se manifester. On ne parlera pas cette année de Jean-Baptiste, ce sera pour l'an prochain, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui cette année. Mais Jean-Baptiste est une belle illustration de ça, quoi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein. Puis il n'a pas une vie facile non plus. Et on a besoin de ça. Je suis en train de lire un livre qui me bouleverse ce matin. Je pleurais en lisant, littéralement, en lisant ce passage. C'est l'histoire d'un prêtre, Henry Nouwen, hein, qui était enseignant à Harvard, à Yale, etc. Il écrivait des livres, il faisait des conférences, etc. Puis il voyait bien que ça tournait en rond. Et puis il luttait avec la dépression, avec des problèmes dans sa vie. Et puis il décide de partir vivre dans une communauté de l'Arche de Jean Vanier où ils vivent avec des personnes en situation de handicap. Et là, il doit s'occuper de quelqu'un qui est gravement malade, hein, qui a des handicaps lourds. Et cet homme-là, ce n'est pas qui est le gars qui l'aide, qui le soigne, qui fait sa toilette. Pour lui, c'est juste quelqu'un comme les autres. Et là, il va vivre 9 ans dans cette communauté et il va être bouleversé parce qu'il va découvrir autre chose. Parce que là, ce n'est plus quand cet homme qui s'appelle Adam, hein, qui va aider. Il dit, quand je suis avec lui et que je vis avec lui, il ne me regarde pas comme l'enseignant qui enseigne à Harvard, celui qui a écrit des livres, celui qui fait des conférences. C'est juste le gars qui vient pour l'aider à prendre sa douche. Et là, il a commencé de comprendre beaucoup de choses. Et lui, il appelle ça, et j'aime beaucoup cette expression, la spiritualité de la faiblesse. Et je suis en train de lire le journal qu'a écrit cet homme la dernière année avant qu'il meure, donc pas avant que le jeune homme meure, mais avant que lui meure, mais il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais il a écrit un journal pendant une année, il est mort 3 semaines après avoir écrit ce journal. Ça s'appelle Journal de la dernière année, c'est très très beau. Et ce matin, je lisais le passage où justement le jeune homme de 34 ans, dont il s'est occupé pendant 9 ans, bah, il a une crise d'épilepsie plus grave que les autres, combinée avec un problème cardiaque, et il meurt. Et il est là quand ce jeune homme meurt, et il est bouleversé. Et en même temps, il est tellement reconnaissant de tout ce qu'il a pu apprendre avec cet homme-là, quoi. Et puis il dit à Dieu, bah, merci, pour c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait dans ma vie, de me permettre de rencontrer ce jeune homme-là, qui m'a fait comprendre comment tu travailles dans nos vies par la faiblesse. Alors Hérode est méchant, il n'a pas d'excuse, il rendra compte à Dieu, puis ça c'est son problème, hein, voilà. Il ira en enfer ou pas, il va griller ou pas, c'est pas à nous de gérer ça. Mais il y aura toujours des Hérodes sur terre, il y en a plein partout. Hein. Et puis il ne faut pas croire que parce qu'on est dans un pays qui a l'air civilisé, il n'y en a pas. Hein. Je ne partage pas tout à fait les convictions de David sur le fait que la Suisse est un pays chrétien. Je pense que la religion en Suisse c'est l'argent, et qu'on l'a habillé de christianisme, et que du coup, ce qu'on défend, c'est l'ordre établi qui nous va bien comme ça. Hein. Donc, je crois que nos efforts doivent être surtout pour le travail intérieur, ce que tu fais avec tes amis. Je trouve que ça, c'est comme ça que la Suisse va rester un pays chrétien, si on continue de partager l'Évangile. Ouais. Mais ce qui est difficile ici, c'est que beaucoup pensent l'être alors qu'ils ne sont pas. Là-bas, ils savent qu'ils ne sont pas, quoi. On a le vaccin ici, soi-disant, quoi. Mais ce n'est pas que je voudrais vivre là-bas, hein. Soyons bien clairs. Hein. Je ne suis pas pour détruire ce qu'on a. Mais je pense que nous, notre priorité, elle doit vraiment être sur comment on peut communiquer ce Christ qui vient dans la faiblesse, qui vient désarmé. Qui se laisse crucifier et puis qui dit à ses disciples faites comme moi quoi, range ton épée et puis non parce que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée, mais moi je viens vous montrer une voie supérieure. Et puis ce chemin là aucun être humain peut l'apprendre par lui-même, c'est pas possible, parce que c'est contraire et c'est paradoxal parce que c'est Dieu qui nous a créés, hein, qui a fait de nous. Il a mis son esprit dans des animaux, des mammifères, comme les autres, mais il y a son esprit en plus, donc ça fait toute la différence. Hein. Et nous avons, en tant qu'animal, un instinct de survie. On veut le meilleur pour nous, on veut survivre, et si tout le monde entier doit mourir pour que je vive, c'est pas grave. Et ça, on est tous comme ça, hein. On l'éduque un peu, on le cache, non, mais on est comme ça, et puis il faut le savoir. C'est pas un péché d'être comme ça, Dieu nous a fait comme ça, voilà. Mais il nous a donné quelque chose en plus, et puis il veut nous faire découvrir la force de la faiblesse, mais ce n'est pas parce que la faiblesse serait un mérite, attention, hein, comme l'humilité, la fausse humilité, non, c'est juste qu'elle est indispensable pour laisser Dieu agir. Vous voyez, je pense à ça un petit peu comme quand il y a deux forces qui s'affrontent, hein, qui sont face à face, si vous avez deux choses qui poussent, ben, il faut qu'il y en ait une qui soit plus forte que l'autre, ou il faut qu'il y en ait une qui soit moins forte que l'autre. Et dans nos vies, il y a des choses qui montent, qui sont nous, réussir, s'affirmer, y arriver, être le meilleur, être le premier. Et ça, c'est une force qui est forte en nous et qui n'est pas mauvaise. Mais en nous, il y a la vie de Dieu qui voudrait aussi monter comme une source. Et souvent, elle est en opposition avec cette « je dois y arriver, je dois le faire, il faut que je ». Et Dieu dit, bon, ben, vu qu'il ne va pas y arriver tout seul, on va fermer les vannes de l'autre côté, ou on va monter la pression, c'est peu importe. L'équilibrage se fait d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse passer de subir la faiblesse à accueillir la faiblesse. Pas la fabriquer, pas la chercher, non. Ça, ce n'est pas notre rôle. Mais l'accueillir quand elle vient, parce que c'est là que Dieu va manifester sa force. Et puis, ben, le monde étant ce qu'il est, je vais juste encore vous lire un verset. Chaque fois que la vie de Dieu va se manifester, ça va faire ressortir aussi le mal. Hein. Paul dit, je ne puis que remercier Dieu, il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, 2 Corinthiens 2,14, par notre union envers lui, et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui est à la hauteur d'une telle tâche? Et la réponse non écrite, Paul dit, en tout cas pas moi. Hein? Donc je pense qu'on peut dire nous aussi. Et voilà, Christ vient dans sa faiblesse. Et puis ben, y a des gens qui viennent de Bagdad, ces espèces de non-chrétiens là, qui adoraient des dieux bizarres, mais qui... c'est eux qui viennent. Et puis il y a tout ce peuple religieux qui a les prophéties, qui a tout, qui a la vérité, qui garde son pays pour Dieu, et puis qui tue les enfants. Aux uns une odeur de vie, aux autres une odeur de mort. Qui est suffisant pour ces choses? Mais nous, sachons accueillir Christ, comme il est venu sur terre, dans nos vies, de cette façon humble, petite, discrète, délicate, fragile. On ne sait pas, on doute, on se demande. Et puis, on va être surpris de voir comment Christ en nous peut laisser sortir des bonnes choses, hein, nous remplir de lui. Et là, dans ces moments-là, en fait, on est fort. On est fort parce qu'on a été faible. Et on va devoir redevenir faible pour redevenir fort. Et puis, c'est un cercle vicieux. Et puis, je vais pas le faire ce matin, je termine réellement là. Mais essayez de repasser vos Bibles du début à la fin, hein, toutes les histoires qu'on connaît. C'est toujours ça. Hein. Jacob va être frappé à la hanche, Abraham, il faut qu'il arrive au bout, et puis David, il faut qu'il a, et puis l'autre, et puis les uns après les autres, tous, Paul, il faut qu'il se prenne, c'est pas un mur qui se prend, c'est un barrage en titane qu'il faut pour arrêter un bonhomme pareil, quoi, parce que c'est un bulldozer. Mais c'est pas grave, Dieu a les murs qu'il faut pour chacun. Hein. Il tombe de cheval, il est aveugle, il mange pas pendant 3 jours, il boit pas, enfin... Il fallait une sacrée laisse pour le freiner, celui-là. Quoi. Et puis après, même ça ne suffit pas, il faut y rajouter une bonne écharde quelque part, là, je ne sais pas quoi, mais un truc qu'il maintienne sans arrêt en souffrance pour qu'enfin Dieu puisse faire un truc avec lui. Quoi. Et puis bon, on est pareil. Hein, on est pareil. Mais moi, je crois, en tout cas pour moi, cette année, Noël, c'est beaucoup ça. Accueillir la faiblesse sous toutes ses formes. Le temps qui passe, les trahisons, les choses difficiles, les difficultés, les maladies, les deuils, la méchanceté de ce monde, l'injustice, et la liste est longue, je vous laisse la continuer. Mais au lieu de devenir amer, on va faire comme les arbres, on va absorber ça, laisser cette faiblesse nous transformer, et on va redonner de l'oxygène, la vie de Christ qui vient de nous. Et ça, c'est le vrai message de Noël, je crois, pour nous. Seigneur, merci pour... tes plans, on ne comprend pas tout, on ne comprend pas grand-chose même, mais assez pour pouvoir vivre avec toi, pour pouvoir t'accueillir. Merci d'avoir relevé ce défi, d'être venu naître parmi nous dans le dénuement, dans la faiblesse, dans l'incompréhension, dans la méchanceté et tout le reste. Et puis, aide-nous à t'accueillir, Seigneur, dans notre faiblesse, dans notre incapacité, dans notre petitesse, dans tout ce qui fait que on n'y arrive pas sans toi, mais qu'avec toi c'est possible. Et qu'on puisse vivre une vie forte, une vie de victoire, mais parce qu'on a accepté d'être faible et que tu sois notre force, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour le vivre et nous avons besoin de toi pour l'expérimenter. On ne peut pas, on ne veut pas le fabriquer, mais on veut consentir à ton plan pour nous, te laisser nous conduire. Alors merci pour cela, merci pour ces moments ensemble et conduis-nous dans ta vie, dans ta vérité, dans cette faiblesse qui rend fort, Seigneur. Amen.